êtes sur Radio Orient, il est 17h, le point de l'actualité avec vous, Nadia Bencher. Au sommaire de cette édition, budget 2026, Sébastien Lecornu échappe à de censure et relance le 49-3. Un nouveau vote de motion est attendu mardi à l'Assemblée. Détenus de Daesh, des Européens ont été transférés de Syrie vers l'Irak. Bagdad presse l'Europe de les rapatrier sur fond de crainte d'évasion dans les camps du nord-est syrien. Notre dossier du jour consacré ce soir à l'Iran. Donald Trump annonce une armada vers le Golfe alors que Téhéran menace de viser les bases américaines. Nous entendrons à ce sujet Kevan Gafaiti, diplômé en relations internationales et enseignant à Sciences Po Paris. Il était en Iran au début de ce mois. Bonjour à tous. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a fait rejeter deux motions de censure après avoir engagé le 49-3 sur le budget 2026. La motion de la gauche hors PS a reçu 69 voix à 19 voix du seuil nécessaire pour renverser le gouvernement. Celle du RN a échoué aussi. Dans la foulée, Lecornu a déclenché un nouveau 49-3 sur les dépenses et l'ensemble du texte et de nouvelles motions ont été déposées. Elles devraient être examiné mardi, puis le budget sera transmis au Sénat avant un dernier passage à l'Assemblée. L'affaire du lait contaminé, tous les lots de lait infantile concernés par une possible contamination bactérienne ont été retirés du marché, assure la ministre de la Santé Stéphanie Rist. Deux enquêtes pénales ont été ouvertes à Bordeaux et Angers après le décès de deux nourrissons ayant consommé un lait rappelé par Nestlé sans lien de causalité établi à ce stade. Nestlé qui avait lancé le 5 janvier un vaste rappel pour risque de présence bactérienne promet de coopérer en toute transparence. Les parents sont appelés à vérifier les références sur le site Rappel Conso et à consulter en cas de symptômes après consommation d'une boîte concernée. À l'international, des djihadistes européens figurent parmi les détenus de Daesh transférés cette semaine de Syrie vers l'Irak dans une opération américaine portant sur 7000 prisonniers. Ce transfert intervient alors que les forces kurdes se retirent de plusieurs prisons et camps du nord-est syrien faisant craindre des évasions. Le camp d'Al-Hol est jugé volatile. L'ONU dit ne pas avoir pu y entrer tandis que des sources évoquent des fuites dans un vide sécuritaire. Bagdad appelle les pays européens à rapatrier leurs ressortissants, une demande réitérée au président français Emmanuel Macron. Donald Trump affirme que de nombreux navires américains font route vers le Golfe au cas où, tout en disant laisser la porte ouverte au dialogue avec l'Iran. Les gardiens de la Révolution assurent avoir le doigt sur la gâchette et Téhéran prévient que les bases et intérêts américains seraient des cibles légitimes en cas d'attaque. Sur place, la contestation déclenchée fin décembre a été violemment réprimée. Un premier bilan officiel fait état de 3117 morts, chiffre contesté par des ONG. L'accès à Internet reste très fortement perturbé. Emmanuel Macron reçoit en ce moment même à Paris le Premier ministre libanais Nawaf Salam, une rencontre sur fond de cessez-le-feu fragile entre Israël et le Hezbollah. L'Élysée insiste sur le respect de la trêve et sur la deuxième phase du plan visant le monopole de l'État libanais sur les armes. L'armée libanaise dit avoir achevé le désarmement du Hezbollah au sud entre la frontière et le Litani, mais le mouvement refuse de remettre ses armes au nord du fleuve. Le chef de l'Élysée réaffirmera le soutien français à l'armée libanaise avant une conférence de soutien à la souveraineté du Liban prévue à Paris le 5 mars. Et puis début de la réunion d'un groupe de travail trilatéral Russie, Ukraine, États-Unis sur les questions de sécurité. La rencontre a lieu aux Émirats Arabes Unis. Elle intervient après une rencontre jugée utile à Moscou entre Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff. Selon Kiev, la question clé du contrôle des territoires de l'Est, notamment le Donbass, sera au cœur des discussions aujourd'hui et demain. Une réunion séparée sur les questions économiques est également annoncée entre l'émissaire américain et un représentant russe. C'est la fin de ce point de l'actualité. Restez avec nous. On se retrouve tout de suite pour le dossier du jour. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Orient. Place à présent au dossier du jour consacré à l'Iran. Que se passe-t-il en Iran ? Cette semaine, la tension s'était portée sur le Groenland et les velléités du président américain. Mais le regard se tourne désormais vers le Golfe. Donald Trump brandit à nouveau la menace, évoquant des raids aériens contre la République islamique après des frappes menées l'été dernier sur des sites nucléaires iraniens. Le président américain affirme aussi qu'une armada navale est en route vers le Golfe. Kevin Gafaiti était en Iran au début du mois, diplômé en relations internationales et enseignant à Sciences Po Paris. Il revient d'abord sur la répression du soulèvement populaire.
Oui, on peut tout à fait confirmer le fait que la réponse de l'État iranien a mis un coup d'arrêt net à l'élan populaire, aux manifestations du peuple iranien. Ce qu'il faut voir, c'est que cette répression, cette réponse de l'État, elle a été meurtrière. Et ça, c'est pas un enjeu de débat. Et on peut effectivement voilà, acter du fait d'un bilan très très lourd. Et ce qu'il faut voir, c'est que, je l'avais dit par le passé, je le répète fortement, explicitement maintenant, jeudi 28 décembre, vous avez eu l'étincelle qui s'est propagée dans tout l'Iran. Et en réalité, dès le surlendemain, dès le samedi 30 janvier 2025, vous aviez la réponse. Et je me rappelle, pour avoir été sur place, entendre beaucoup de personnes manifester en soutien de la République islamique d'Iran. Et ça s'est confirmé dès le lundi suivant avec des manifestations monstres dans Téhéran qui ont réuni plusieurs centaines de milliers de personnes. Il faut voir que, outre ce premier facteur, il y en a au moins encore deux autres, à savoir la coupure d'Internet. Lorsque vous n'avez pas Internet, vous ne pouvez pas échanger, vous ne pouvez pas vous organiser, vous ne pouvez pas communiquer. Donc, pour organiser quelques mouvements que ce soit, mécaniquement, cela bloque la situation. Et le au moins troisième facteur est effectivement un facteur tout simplement de peur. J'avais beaucoup de personnes qui me disaient « Mais Kevin, nous n'allons pas sortir dans les rues puisque c'est dangereux. Il y a le risque de mort. » Donc à partir de là, du fait du soutien, de la réaction de personnes qui sont favorables à l'État iranien, mais aussi de la coupure d'Internet et enfin du risque de mourir, on parle de plusieurs milliers de morts. L'État iranien ne l'a pas discuté, donc c'est attesté. Et même si le chiffre est encore assurément plus élevé que ce qui a été dit, puisqu'on ne sait toujours pas, eh bien vous avez un mouvement qui s'est essoufflé. Mais très rapidement, il s'était essoufflé. Et je peux aussi vous dire que depuis hier soir, j'ai des amis qui ont Internet à Téhéran, qui sont en Iran, qui vivent en Iran et qui ont enfin Internet. Ils ont pu communiquer avec moi et je leur ai demandé deux choses. Comment allez-vous ? Comment va Téhéran ? Est-ce que les gens sortent toujours dehors ? Ils m'ont dit, bah, écoutez, nous on va bien. Téhéran est devenu très calme. C'est vraiment le mot qui a été... En fait, est devenu calme. Téhéran aram shod. C'est vraiment est devenu calme. Et il dit tout simplement, les personnes ne sortent plus. Ils ne m'ont pas dit, il y a moins de personnes qui sortent. Ils disent vraiment, les gens ne sortent plus.
Donc la peur est encore là, c'est ce que l'on entend.
Je pense que ce n'est pas un sentiment qui s'efface du jour au lendemain et surtout lorsque l'on voit effectivement qu'après l'action, il y a la réaction aussi de l'État iranien. Je ne vois pas en quoi la réaction de l'État iranien différerait de ce qu'on a pu voir fin décembre, début janvier, s'il y avait de nouvelles sorties populaires.
Et on l'a dit, Donald Trump affirme qu'une armada américaine fait route vers le Golfe. Ce n'est pas une première dans la région, mais le signal est politique et il interroge. S'agit-il d'une démonstration de force destinée à mettre la pression sur Téhéran ou d'une menace plus concrète ? La question est posée à Kevin Gafaiti. Il revient aussi sur un autre point, l'absence à ce stade d'un soutien réel à la population iranienne, pourtant annoncé et promis par Washington.
Ce n'est pas anodin. Il faut voir les choses à leur juste importance, sans la minimiser, sans non plus l'exagérer. Il y a effectivement des déploiements navals américains dans le Golfe Persique. Il faut voir que le Golfe Persique donc est collé à la mer territoriale iranienne. C'est la mer territoriale iranienne, donc c'est vraiment très proche du territoire iranien, du territoire national. C'est donc des instruments de guerre américains qui peuvent absolument agir sur le territoire national iranien. Et je ne parle pas de nécessairement relais ou partenaires régionaux. Sur le sol iranien, il y a une possibilité d'action américaine en permanence, mais renouvelée avec ces déploiements. Vous l'avez dit, ce sont des déploiements qui sont réguliers. Vous avez des destroyers, des porte-avions américains qui font sur une base très régulière des patrouilles dans le Golfe Persique, des exercices de déminage, même d'ailleurs des coopérations avec le IMSC, le International Maritime Security Construct, avec l'Arabie Saoudite et de mémoire les Émirats Arabes Unis, peut-être une troisième monarchie arabe du Golfe Persique dont le nom échappe. Et à partir de là, vous avez cependant un calendrier qui nous montre que ce n'est pas un hasard. Vous avez l'envie américaine, à minima, d'envoyer un signal. Si nous voulons, nous pouvons agir, et nous regardons maintenant droit devant vous, et à maxima, nous allons agir. Est-ce que maintenant, est-ce que c'est un scénario probable, enfin possible à tout le moins, une intervention américaine? Oui. Est-ce que c'est un scénario probable? Je m'avance avec beaucoup de parcimonie. Je n'ai pas de boule de cristal politique. Je ne crois pas qu'actuellement, il y ait une envie ou à tout le moins un intérêt américain pour intervenir. Et c'est le deuxième élément de ma réponse. Vous avez dit le fait qu'il y avait une aide américaine qui avait dit être acheminée.
Et justement, qu'en est-il oui.
Exactement. Réponse courte, rien. Réponse courte, rien, et je développe un peu plus. Vous aviez le président américain qui disait « Help is coming, it's on its way », l'aide est en chemin, l'aide arrive. Le journaliste américain lui demandait « Mais quel genre d'aide est-ce que c'est? Est-ce que c'est une aide matérielle, donner des armes, donner de l'argent, etc. ?» Il avait dit « Non, non, c'est une aide qui va être très massive, qui va avoir différentes formes. » Et en réalité, il n'en est rien du tout. Du moins, je n'en ai pas la connaissance, une quelconque aide matérielle, immatérielle. Vous voyez comment vous avez... un président américain qui s'est beaucoup exprimé sur le moment, sur un dossier brûlant, actuel, mais à partir du moment où vous avez eu une coupure d'internet, une coupure d'information, peut-être il y a eu aussi un détournement des priorités. On voit maintenant, les États-Unis, Washington, beaucoup plus lorgnés du côté du Groenland, qui leur est finalement beaucoup plus proche. Le Groenland est un intérêt pour les États-Unis, est un intérêt direct pour les États-Unis. L'Iran, du moins la manifestation populaire, c'est un intérêt indirect et qui a beaucoup, c'est un théâtre beaucoup plus lointain d'un point de vue géographique, d'un point de vue politique, d'un point de vue relais d'influence, je dirais.
Kevin Gafaeti, diplômé en relations internationales et enseignant à Sciences Po Paris, répondait à François-Xavier de Calonne. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Raymond Join, à la réalisation. Excellente suite de programme à l'écoute de Radio Orient.